Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères, avant de parler de la Sainte Famille, faisons quelques réflexions sur les événements de cette semaine. Pour tâcher d'y voir clair, nous regarderons à la lumière de la foi. Ne nous contentons pas seulement de regarder les médias menteurs, comme la plupart de nos contemporains qui croient y voir clair alors qu'il ne voit que d'un œil, car il ne regarde pas à la lumière de la foi. Nous ferons six réflexions. Première réflexion, l'attentat a visé des journalistes d'un périodique satirique qui s'en prenait pas seulement à la religion musulmane, mais surtout à la religion catholique. Le dernier numéro hors série de ce journal était un numéro spécial pour Noël, comprenant une couverture outrageante contre la Sainte Vierge et son divin enfant. Ce numéro prétendait révéler la véritable histoire de Jésus à partir des évangiles apocryphes, et je n'ose vous dire les qualificatifs blasphématoires dont ils affligeaient notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce numéro n'était qu'un exemple parmi une longue série de numéros blasphématoires et obscènes concernant notre sainte religion. Deuxième réflexion, l'islam est une fausse religion et les musulmans sont dans l'erreur. C'est une charité que d'essayer de les convertir et de leur faire connaître la vraie religion en leur montrant les contradictions et les absurdités qu'on leur fait croire. C'est ce que fait, entre autres, l'abbé Pagès dans son livre où il pose 1235 questions aux musulmans pour les faire réfléchir. Mais il faut le faire avec charité, en montrant aux musulmans que nous le faisons par amour pour eux. Ce n'est pas une bonne méthode que de se moquer d'eux et d'insulter ce qu'ils considèrent comme sacré. Troisième réflexion. Le bon Dieu se sert parfois de fléaux pour châtier les pécheurs. Rappelez-vous la montagne Pélée qui engloutit la ville de Saint-Pierre en Guadeloupe suite à un blasphème commis par un groupe anticatholique qui fit un simulacre de chemin de croix et jeta un crucifix dans le volcan, le jour du Vendredi Saint. Rappelez-vous aussi l'histoire de Balthazar, le fils de Nabuchodonosor. Ce roi fit un festin, il invita 1000 convives, et pour se moquer de la vraie religion, il fit venir les vases d'or du temple pour boire dedans, tandis qu'il louait ses faux dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer et de bois. Et on vit se tracer sur la muraille, par une main mystérieuse, les mots « Mene tekel phares » compter, peser, diviser. Tes jours ont été comptés et ton règne va prendre fin. Tu as été pesé et tu as été trouvé léger et ton royaume sera divisé. Et la nuit même, la ville fut prise et le roi fut tué. Parmi les fléaux de Dieu, il y a l'islam. Cela fait 13 siècles que les chrétiens le savent, et il faut l'amnésie conciliaire pour l'oublier. Dans le monde entier, des milliers de chrétiens sont massacrés, persécutés, humiliés au nom de la religion musulmane qui prône la guerre sainte contre les infidèles. Quatrième réflexion. En disant que l'islam persécute les chrétiens et qu'il est un fléau de Dieu, nous ne prétendons pas qu'ils sont les seuls ni les pires ennemis de l'Église. On sait très bien que les groupes armés qui mènent le djihad, la guerre sainte, ont été armés par des puissances non musulmanes, mais qui veulent se servir de ces musulmans fanatiques pour leurs propres intérêts et notamment pour l'établissement d'un gouvernement mondial anti-chrétien. Cinquième réflexion. La presse, les médias nous mentent et nous manipulent. Sans entrer dans une discussion sur la matérialité des faits, disons que ces médias nous mentent en nous donnant une fausse interprétation des faits. Ils utilisent l'événement pour nous faire croire que ce qu'il faut défendre, c'est la laïcité, la liberté d'expression, la démocratie. Ces médias menteurs nous cachent que c'est au nom de ces valeurs de la République qu'on a déchristianisé la France, qu'on a instauré l'éducation sans Dieu, qu'on a favorisé ces journaux blasphématoires, qu'on a favorisé l'entrée en France de millions de musulmans. Bref, la franc-maçonnerie et les puissances mondialistes se servent des médias pour susciter une émotion autour de cet événement en faveur de la cause même de ces malheurs, c'est-à-dire le mondialisme anti-chrétien. Attendons-nous à ce que des mesures antiterroristes soient prises, mesures qui ne gêneront pas beaucoup les vrais terroristes, mais qui gêneront ceux qui veulent mener une vie paisible selon la loi de Dieu. Sixième réflexion. Que fait l'Église conciliaire? Elle apporte son soutien, son chorus, au battage médiatique. Le pape a déploré cette attaque contre la liberté d'expression. La conférence des évêques de France a dit que cette violence touchait à la liberté d'expression, élément fondamental de notre société. Rappelons quand même que cette liberté d'expression est une liberté moderne condamnée par les papes anticonciliaires, car on ne peut avoir la liberté de blasphémer. On n'aurait pas dû donner la liberté à ce journal de faire ses numéros blasphématoires. Aujourd'hui a lieu une manifestation. Voici la déclaration de la conférence des responsables de culte en France. À ce sujet, donc ces responsables, c'est les évêques de la conférence des évêques de France, les pasteurs de la Fédération post-protestante de France, les orthodoxes de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, le grand rabbin, le président du consistoire, du rabbinat de France, le recteur de la Grande Mosquée, du Conseil français du culte musulman, enfin l'Union bouddhiste de France. Voici ce qu'il déclare. Nous sommes unanimes dans la défense des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité et en particulier la défense de la liberté d'expression. Nous nous engageons à poursuivre cet élan de partage, de dialogue et de fraternité. Bref, en un mot, on se sert de cet événement pour promouvoir le MASDU, selon l'expression de l'abbé de Nantes, le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle, prélude du royaume de l'Antéchrist. Que pouvons-nous faire devant ces événements? Eh bien, la réponse, mes chers frères, se trouve dans la fête d'aujourd'hui. Face à ceux qui veulent faire de cette terre un prélude de l'enfer, tâchons, quant à nous, d'en faire le vestibule du paradis. Et comment? Grâce à des foyers, à des familles chrétiennes. Nous n'avons pas de pouvoir sur l'État ou sur l'Église pour y remettre de l'ordre, sinon par nos prières et nos sacrifices. Mais nous pouvons agir là où nous sommes pour rendre chrétiennes nos familles, familles au sens strict ou dans un sens plus large, pour introduire l'esprit familial dans toutes nos sphères d'activité. Par exemple, nous avons voulu que notre collège-lycée s'appelle le foyer Saint-Thomas pour montrer que nous voulions qu'il y ait un esprit familial dans cet établissement. Remarquons pour commencer que Jésus a voulu passer les 9/10 de sa vie terrestre, dans le cadre d'une famille. On nous montre l'importance qu'il y accordait. Qu'est-ce qu'une famille chrétienne? C'est celle ou celui qui exerce l'autorité le fait à l'exemple de Saint Joseph, avec calme et sérénité, ayant conscience de faire la volonté de Dieu et de parler en son nom. Saint Joseph savait que son épouse et son fils lui étaient bien supérieurs en sainteté, mais son humilité lui faisait accepter sans crainte et sans trouble son rôle de chef et de supérieur. Il savait commander à Marie et à Jésus, leur donner des ordres pour le bien commun de la Sainte Famille et même pour le bien personnel de chacun de ses membres. De même, la Sainte Vierge, soumise à Saint Joseph, comme il convient à une épouse modeste, savait aussi donner des ordres à Jésus dans les mille occasions que présente la vie de famille, et Jésus acceptait humblement cette suggestion. Et il leur était soumis, avons-nous entendu, dans l'Évangile. C'est cette dévotion à la Sainte Famille qui a fait du Canada une des plus belles provinces de France, de l'ancienne France. Vous voyez ce que nous lisons dans les anciennes chroniques. Le premier jour de mai 1637, Monsieur le gouverneur fit dresser devant l'église un grand arbre enrichi d'une triple couronne, en bas de laquelle il y avait trois grands cercles, l'un sur l'autre, enrichis de festons, qui portaient ces trois beaux noms écrits comme dans un écusson. Jésus, Marie, Joseph. Cet arbre fut salué d'une escouade d'arquebusiers qui le vinrent entourer. Peu de temps après, arriva au Canada un saint évêque, Monseigneur de Laval, qui développa la dévotion par l'établissement d'une confrérie. Je vous lis les débuts du règlement de la confrérie de la Sainte Famille, instituée en 1665 par Monseigneur de Laval. L'esprit de la confrérie consiste à imiter les personnes sacrées qui composent la Sainte Famille, chacun selon son état et sa condition. L'exemple qu'il donne pour les mères de famille. Les femmes auront un soin particulier d'imiter la Sainte Vierge, qu'elles auront toujours devant les yeux comme le modèle de leurs actions, et la considéreront comme leur supérieure et la règle de leur perfection, étant assurées qu'elles seront de la Sainte Famille autant qu'elles imiteront de plus près ses vertus. Les principales vertus qu'elles doivent se proposer sont les suivantes. Envers Dieu, la crainte de l'offenser, la promptitude dans les choses où il va de son honneur et de son service, une grande soumission et conformité à sa volonté dans les accidents les plus fâcheux, un profond respect pour toutes les choses saintes. Envers le mari, un amour sincère et cordial qui fasse qu'on ait un grand soin de tout ce qui le regarde selon le temporel et le spirituel, tâchant toujours de le gagner à Dieu par prière, bons exemples et autres moyens convenables. Le respect, l'obéissance, la douceur et la patience à souffrir ses défauts et ses mauvaises humeurs. À l'égard des enfants, un grand soin de les élever dans la crainte de Dieu, de leur apprendre et de leur faire dire tous les jours leurs prières, leur inspirer une grande horreur du péché, ne leur souffrir rien où Dieu pourrait être offensé, une grande douceur à les corriger, la patience à souffrir leurs petites faiblesses, envisageant sans cesse dans leur personne celle de l'enfant Jésus, dont ils sont les images vivantes. Garder la netteté et la propreté dans leurs habits, évitant les ajustements qui ne servent qu'à nourrir la vanité des parents et à l'inspirer aux enfants. À l'égard du ménage, un grand soin et une grande vigilance, prenant garde que rien ne se perde ni ne se gâte par sa faute, ait une propreté sans affectation. À l'égard de soi-même, l'humilité, la douceur, la chasteté, la tempérance dans le boire et le manger, la modestie et la retenue en parole, la simplicité en ses habits, y gardant la propreté et y évitant la vanité, et ce qui excède l'état et la condition. Enfin, un très grand soin de retrancher tout ce que l'on connaîtra être déplaisant à Dieu et qui ne sera pas conforme à l'esprit de la Sainte Famille, se disant souvent à soi-même, « Comment est-ce que la Sainte Vierge agissait en cette occasion ? Faisait-elle cela ? Parlait-elle ainsi ? S'habillait-elle de cette sorte ?» Une famille qui vit à l'imitation de la Sainte Famille est une famille où les parents sont attentifs à l'éducation de leurs enfants et où ceux-ci tiennent la place de Jésus par leur obéissance, leur progrès, la joie et la lumière qu'ils répandent autour d'eux. Être attentif à l'éducation des enfants demande de la part des parents du temps, de la vigilance, un souci de se former et de s'informer. C'est un art qui ne s'improvise pas, c'est l'art des arts. En 1892, plus de deux siècles plus tard, l'évêque de Québec écrivait « Le grand mal de notre époque, et en particulier de notre pays, semble exister au sein même de la famille. Combien de fois dans nos visites pastorales ne nous sommes-nous pas élevés avec force contre le manque de surveillance dont les parents se rendent coupables envers leurs enfants et contre l'insubordination des enfants vis-à-vis de leurs parents. Nous accomplissions alors un des plus rigoureux devoirs de notre charge. Malheureusement, le mal existe encore et prend des proportions alarmantes. » 1892, il y a plus de 120 ans. Cependant, comme le dit Léon XIII dans l'admirable encyclique Sapientiae Christianae, la famille est le berceau de la société civile, et c'est en grande partie dans l'enceinte du foyer domestique que se prépare la destinée des États. N'avons-nous pas, dans ces paroles, continue l'évêque de Québec, l'explication de cette tendance chez certains hommes à secouer le joug de l'obéissance? On s'est accoutumé dans la famille à ne pas obéir et à résister aux parents. Et l'entraîne avec soi, en dehors de la famille, cette habitude funeste qui a été contractée insensiblement. Les parents eux-mêmes, une fois qu'ils ont déposé le sceptre de l'autorité, perdent leur prestige aux yeux des enfants et ne commandent plus qu'avec une crainte pusillanime. Comment, avec ces pères de famille, faire des gouvernants, des magistrats sans peur et sans reproche, comme il en faut pour régir les sociétés. Hélas, que dirait-il aujourd'hui ? Je ne parle pas pour vous, chers parents, qui faites des efforts admirables pour constituer des familles chrétiennes. Mais chez nos contemporains, que de parents n'utilisent pas ou utilisent mal l'autorité que Dieu leur a donnée. Il y a mille manières d'esquiver son devoir. Autrefois, les pères de famille partaient au cercle. Aujourd'hui, c'est l'ordinateur, le téléphone, l'excès de travail ou simplement la négligence à se former et la faiblesse à commander. Terminons ces réflexions par une prière, consécration, approuvée par Léon XIII, qui a institué cette fête de la Sainte Famille. Nous demanderons par cette prière à la Sainte Famille que dans ce monde où règne de plus en plus la violence, la haine, l'oubli de Dieu, prélude de l'enfer, nous construisions des havres de paix et de charité, prélude du paradis. Ô Jésus, notre aimable Rédempteur, qui étant envoyé du ciel pour éclairer le monde par votre doctrine et vos exemples, avez passé la plus grande partie de votre vie mortelle dans l'humble demeure de Nazareth, soumis à Marie et à Joseph, et avez consacré cette famille qui devait servir d'exemple à toutes les familles chrétiennes. Daignez accepter avec bonté notre demeure qui se dévoue tout entière à vous. Protégez-la, gardez-la, affermissez-y votre sainte crainte avec la paix et la concorde de la charité chrétienne, afin qu'elle devienne semblable au modèle divin de votre famille et que tous ses membres, sans exception, participent à son bonheur éternel. Ô Marie, Mère très aimante de Jésus-Christ, et aussi notre Mère, faites par votre affection et votre clémence que Jésus accepte cette consécration que nous lui faisons et qu'il nous prodigue ses bienfaits et ses bénédictions. Ô Joseph, très saint gardien de Jésus et de Marie, secourez-nous par vos prières dans toutes les nécessités de notre âme et de notre corps, afin qu'avec vous et avec la bienheureuse Vierge Marie, nous puissions louer éternellement Jésus-Christ, notre divin Rédempteur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.